Bravo à tous, merci pour ce respect du timing, et c'est infiniment précieux. Et donc dans le même esprit de respect du timing, puisque chacun de nous n'a pu assister qu'à deux ateliers dans la journée, et essayer d'avoir une restitution de l'ensemble des ateliers. On s'est donné comme mission de parler 3 minutes au maximum de chaque atelier qu'on a suivi. On va néanmoins essayer d'être clair et exhaustif, surtout de vous donner envie de vous rapprocher des collègues qui ont fait ces ateliers que vous n'avez pas pu voir. Et donc c'est Sylvie qui ouvre le bal, car elle a suivi le premier atelier « Comment engager une réflexion citoyenne » qui était animé par Julie Calmu et Marie-Pierre Rassa de la Bibliothèque de Bordeaux.
Alors, je vais vous parler de la fabrique du citoyen. Et c'est un projet de la Bibliothèque municipale de Bordeaux. C'est une commande politique suite à l'attentat contre Charlie Hebdo en janvier 2015. Et l'idée, c'était de créer des instances de débat pour repenser le vivre ensemble. Alors, dans un premier temps, il a fallu s'approprier le concept de citoyenneté, ce concept qui paraît relativement simple et compliqué. C'est difficile de pouvoir aussi en parler. Alors, une chose qui a été importante et qui a été dite par les deux intervenantes, c'est qu'il reste encore beaucoup de questions et qu'il y a presque plus de questions que de réponses. L'idée aussi, c'est de déconstruire ce qui est fait afin de l'améliorer au fur et à mesure du temps. Et une autre idée importante, moi, qui m'a beaucoup intéressée, c'est la question le fait de fuir le politiquement correct. Hein. Alors, ce qui est regretté dans cette réflexion, c'est que au cours des différentes éditions, il y a eu trop peu de formats participatifs. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que cette réflexion est compliquée parce qu'elle est personnelle, mais c'est aussi parce que le succès n'est pas forcément au rendez-vous. Et donc, il peut y avoir des formes de se dire « pourquoi j'ai fait ça ?» alors qu'il y a aussi peu de monde qui vient. Autre chose aussi, je l'ai dit au départ, c'est on fait quelque chose qui vient du politique, de la municipalité, mais maintenant c'est carrément devenu aussi un projet de mandature. Et un point qui a été aussi important, c'est le fait d'emmener les équipes. Sur une question sur la citoyenneté, c'est important que les équipes se sentent concernées par la question et que tout le monde en fait se mette au point sur une définition ce qu'est la citoyenneté. Et donc, des groupes de travail, des groupes de réflexion ont été mis en place sur ces questions. Après, il reste, comme je disais tout à l'heure, ce qui paraît être simple, c'est compliqué. Et est-ce que être citoyen, c'est pas tout simplement utiliser les services publics ? Alors, par rapport aux collègues, donc, c'est l'importance des formations qui a été notée pour animer un débat, un atelier philo. Et l'autre question, c'est la question de se sentir légitime à intervenir sur ces questions où, en tant que bibliothécaire, on n'intervient pas forcément beaucoup.
Merci beaucoup. C'est Mathilde Servet qui va prendre la suite. Elle a assisté à l'atelier « Comment associer durablement les citoyens à la vie d'un équipement culturel » animé par Stéphane Vincent de la 27e région. Mathilde, tu as 3 minutes.
Très bien. Alors, vu tout ce qui s'est dit, ça va être un petit peu un défi. Alors, l'obsession de Stéphane Vincent, le directeur de la 27e région, pour rappel, c'est une structure qui accompagne notamment les usages participatifs pour que le service public se réinvente, c'est de repartir tout le temps des gens et de ce qu'ils vivent. Ils ont 3 grandes activités à la 27e région, la recherche-action, la documentation, donc tous les processus participatifs sont documentés, sont en ligne notamment sur leur site, et l'animation de communautés, designers, urbanistes, et toutes ces communautés sont très régulièrement mises en lien les unes avec les autres. L'idée, c'est de mélanger vraiment les regards et les perspectives. Ils ont une philosophie, c'est-à-dire qu'ils souhaitent changer la culture du service public, et ils s'approchent de ce que prône John Dewey, c'est-à-dire que les affaires d'État et de services publics sont beaucoup trop complexes pour vraiment les régler. Donc, on peut les régler, mais en utilisant l'essai-erreur. tous les laboratoires d'innovation s'inspirent de ça aujourd'hui. Il a parlé de l'exemple de Lezoux où, par exemple, il y a une cuisine partagée, une salle de réunion qui sont mises à disposition des habitants, même en dehors des horaires d'ouverture. Ils ont la clé, ils peuvent rentrer quand ils veulent. Et pourquoi, comment on en est arrivé là, finalement, à proposer des services comme ça? Ça vient d'un processus lancé dès l'origine avec eux, où 1000 habitants ont été associés à la co-conception de cette médiathèque, dans le cadre d'un programme qui s'appelait Territoire en résidence. Et le zoo, finalement, c'est comme un laboratoire d'expérience. Hein. Mais par contre, ça prend beaucoup de temps. Tout a été documenté, si ça vous intéresse. Et tout ça a été cadré par une convention d'expérimentation, un protocole en recherche-action, pour que les élus ne s'effarouchent pas quand on travaille avec leurs habitants, hein, je cite. Ils ont voulu pouvoir rencontrer aussi les opposants du projet. Ils les ont intégrés dans la réflexion. Et il y a une grande réflexion qui a été menée aussi sur les modes de gouvernance et la gouvernance partagée, mais pas tout de suite, parce que c'était trop tôt, dès le départ, pour que les élus soient prêts à partager le pouvoir. Leur stratégie, c'est aussi, dans le projet de Le Zoo, de commencer à poser des briques pour que ça fasse style dans la tête des élus, comme les communs, travailler sur la culture comme des communs culturels. Et ils ont créé avec les usagers et le médiathécaire un plan d'usage qui est très connu, donc pas un plan architectural, mais un plan des usages répertoriés par les usagers. Ils ont aussi sorti un rapport qui pourrait vous intéresser, qui s'appelle « 7 pistes pour ne pas faire trop d'erreurs dans la conception des projets ». Eux, ils pensent qu'on ne peut pas atteindre l'excellence, mais en tout cas, ils travaillent à ce qu'on ne reproduise pas un certain nombre d'erreurs dans les projets. Hein. Voilà. Ils ont un programme en Île-de-France qui s'appelle « Lieux communs », où il s'agit justement de gérer les choses en commun. Ça peut concerner des médiathèques, des structures culturelles, des tiers-lieux. Et ils vous invitent à vous rapprocher d'eux si vous souhaitez adopter cette approche. Voilà, je dirais que c'est tout.
Merci Mathilde. Est-ce que Martine Chuva a assisté à l'atelier Coopération, convivialité, commun, créativité avec les publics, comment faire? Atelier animé par Samuel Bosson des Champs Libres de Rennes. Merci Martine.
Donc effectivement, Samuel Bosson a clairement chaussé les lunettes ONU. Il est à la bibliothèque Champs Libres de Rennes. Il a présenté donc les rendez-vous 4C, coopération, convivialité, commun, créativité avec les publics. Alors, initié par un petit groupe de 3 personnes des Champs Libres, ces rendez-vous 4C se développent depuis 7 ans. L'objectif est bien de faciliter l'autonomie des personnes, de répondre à des besoins qui existent, et bien partir des personnes pour faire du lien et sortir d'une logique descendante bibliothèque vers usager. Alors, les groupes 4C sont très variés et reflètent la diversité des publics. Ça peut être des Scrabble en anglais, des goûters en espagnol, vivre sa retraite, etc. Donc, pour accompagner les groupes, l'équipe propose des outils de remix, par exemple, de techniques facilitantes de community building. Donc, ces groupes mobilisent beaucoup les équipes, surtout au début, parce que c'est eux. C'est donc un usager qui initie un besoin et puis qui lance le groupe. Donc, les équipes accompagnent le démarrage de ces groupes, mais en fait, pour finir, nécessitent peu de moyens matériels, la plupart du temps. Alors, bien que ces structures au niveau de l'espace champ libre soient quand même très cloisonnées, puisqu'il y a un musée, une bibliothèque, etc., des initiatives sont actuellement portées pour davantage de collaboration. Et le souhait est vraiment de pérenniser et d'inscrire ces projets dans le projet d'établissement. Alors, beaucoup de questions ont été posées sur les aspects pratiques de ces groupes et le débat était très intéressant et enrichissant. Et je suppose que Samuel Bosson est à disposition de tout le monde pour des questions pratiques.
Voilà. Merci beaucoup Martine, c'est impressionnant. Alors, moi, j'ai assisté à l'atelier de Johanna Ouzani, comment rendre légitime l'engagement des bibliothécaires. Alors, évidemment, on a commencé par parler du pass sanitaire. Est-ce qu'il était légitime ou pas de passer outre ? C'était un bon point de départ pour cette discussion. On a commencé à discuter sur l'intérêt à agir ou l'impératif à agir, ce qui nous a amené à... Ce qui a amené Johanna à nous parler des droits et des devoirs du fonctionnaire et à évoquer le devoir de lier ce devoir de réserve avec la loi de 2016 et le devoir de neutralité, d'intégrité, de dignité, de probité. Et cette discussion nous a amené sur des questions de limites qu'on se pose ou qu'on nous pose, de censure, d'autocensure. Et ensuite, Johanna nous a parlé de la légitimité des organisations à agir. Légitimité pragmatique qui s'appuie sur le cadre légal, une légitimité morale qui s'appuie sur le bien commun ou des légitimités institutionnelles qu'on construit aussi plus au quotidien et au plus près du terrain. En se posant la question s'il y avait légitimité en France, par exemple, à faire des ateliers dans d'autres langues que le français, comme nous montraient nos collègues américains. Et pour finir, nous avons parlé des valeurs professionnelles sur lesquelles s'appuyait cet engagement. En partant de la valeur économique, on envisage la satisfaction de l'usager, et pour finir sur des valeurs plus éthiques, avec des chartes, des déclarations, des manifestes, la recherche en tous les cas de définition de valeurs et la nécessité de faire ce travail de formalisation, voire d'en faire un projet de service, en tous les cas, trouver le moyen de donner du sens à nos actions. La légitimité de tout ce qu'on fait s'appuie sur un cadre légal, s'appuie également sur les ressources qu'on a, en particulier les ressources en personnel, avec tout ce que ça implique. Et la légitimité doit évidemment être en adéquation avec nos publics, nos élus, nos tutelles et nos priorités locales. Conclusion, discuter, se former, élaborer un cadre d'action. Et Johanna peut venir vous aider à discuter de tout ça. Bon, alors, Claire, je sais que tu dois partir tôt. Donc, si tu veux, pour l'après-midi, on prend les ateliers à l'envers. Et donc, on va commencer par le dernier de la liste, en tous les cas, celui qui se naît dans cette salle et qui s'appelle « Des livres à soi », qui est animé par Cindy Mestri et Elisabeth Sauvage.
Alors, dans cet atelier « Des livres à soi », on découvre d'abord que c'est un programme national de médiation à l'attention des parents éloignés du livre et de la lecture. Ce projet est un projet d'envergure qui existe depuis 5 ans et qui a pour objectif de lutter contre l'illettrisme, de créer du lien social entre parents et enfants et les personnes isolées. C'est un projet avant tout de parentalité qui est basé sur des partenariats en associant des structures professionnelles, des services sociaux, ceux de la petite enfance, mais aussi peut-être, le milieu pénitentiaire. Donc, et ce à travers les territoires. On met au cœur de ce dispositif le parent qui ne maîtrise pas forcément la lecture et la langue française. Des livres à soi permet d'aller à la découverte des livres, au départ sans texte, mais aussi de lieux culturels méconnus, comme la bibliothèque, la librairie, mais aussi sa propre ville. Avec des livres à soi, on ose s'aventurer au-delà de son quartier. Grâce à ce programme qui permet aux parents d'apprivoiser le livre, on constate qu'il permet de s'affranchir de ses propres peurs, de renforcer l'estime de soi, mais aussi la prise de parole, de communiquer autrement avec l'autre, avec les autres. D'autres rapports se créent, les regards changent. En famille, la transmission d'une histoire devient valorisante et renforce l'intégration des familles dans la cité. Pour terminer, des livres à soi, c'est d'abord un temps à soi, c'est un temps à l'autre, c'est un temps ensemble, et c'est magique. C'est un dispositif fédérateur, enrichissant entre parents, qui permet de rompre l'isolement. Ici, on ne change pas de lunettes, c'est le regard qui change.
Merci beaucoup. Julie, est-ce qu'on reprend au début? Politique documentaire inclusive des médiathèques de pleine commune.
Alors, je contrôle le temps en même temps. Donc, j'ai eu le plaisir d'écouter Marion Giuliani, Marion Lafargue et Florent Schreiber de pleine commune. Pleine commune, donc, il y a environ 450 000 habitants. C'est un territoire caractérisé par beaucoup, beaucoup d'arrivées de départ, donc un turnover important. Un département jeune, peu diplômé, taux de chômage élevé, 39% des moins de 25 ans sont au chômage. Avec une inadéquation de la qualification des habitants par rapport au profil de poste, un territoire qui économiquement est plutôt dynamique. Bon, donc tout ça laisse apparaître des besoins en accompagnement, numérique, démarche en ligne, français, langue étrangère, etc. À Pleine Commune, ils ont la particularité d'avoir intégré ces besoins à leur projet de service. Ils ont intégré le multilinguisme et les services afférents et les collections dans leur projet de service. Ça évite d'avoir une personne qui est animée par ce désir-là, qui s'en occupe et lorsqu'elle part, ses compétences partent avec elle. Donc il y a plusieurs projets qui ont été déroulés. Je ne peux pas tous les nommer. Mais il y a la communication spécifique avec des flyers en plusieurs langues, l'accueil aussi, et donc le travail de l'accueil en langue anglaise pour être dans un accueil compris de tous, à peu près. Un travail sur les fonds. Alors là, c'est un travail sur des fonds spécifiques. Turc, tamoul et chinois, ce sont les langues qui ont été ciblées. Ils n'ont pas souhaité saupoudrer, ils n'ont pas souhaité l'éparpillement, mais bien au contraire, les concentrer dans la bibliothèque la plus susceptible d'accueillir le public que cela pouvait intéresser. Donc il y a aussi l'édition de plaquettes dans ces langues cibles, de catalogues, de magazines éditorialisés, pour vraiment travailler sur la posture d'accueil et de bienvenue. En termes de services, ils sont nombreux qui permettent un accompagnement linguistique pour apprendre le français, valoriser les langues. Des ateliers de conversation, mais aussi une action culturelle dédiée au multilinguisme. Je ne développe pas, mais vraiment c'est passionnant, il faut aller les interroger. Et notamment, ils construisent un événement autour de la semaine des langues maternelles, donc là, avec la direction de la politique de la ville, et là, ça me semble particulièrement intéressant aussi. Je finirai en 40 secondes sur le projet Imaginaire Imaginé, qui cible un public familial. C'est un travail d'atelier avec des auteurs, illustrateurs, pour produire un objet, un album imagé avec des traductions du vocabulaire dans toutes les langues représentées dans l'atelier, avec des personnes en multilinguisme qui échangent en multilinguisme, et puis en français, anglais et autres. Et cela donne un objet très riche, un objet culturel, Jean-Michel Lucas va me taper sur les doigts, sur lequel on peut refaire une médiation. Je m'arrête, je suis à 2 minutes 57.
Tu es parfaite. Et c'est maintenant Jean-Baptiste Westman qui va venir prendre ta place et nous parler de la bulle d'Annemasse, une expérience de gouvernance partagée, présentée par Aurélie Bertrand et Audrey Becher.
Oui, alors les collègues nous ont présenté une petite structure, une bulle, mais qui a beaucoup d'ambition. Projet lancé en 2015 et qui a été élaboré avec la population à grand renfort de soirée pizza. Vous me direz, c'est normal pour une bulle, il faut rester dans le circulaire. Et qui a été ouverte, c'est mon deuxième chiffre 2 comme 2020, triste année si on s'en souvient, le 9 mars 2020. Donc la structure a été ouverte pour une petite semaine, ce qui ne l'a pas empêché de compter 2500 visites, 250 inscriptions, soit une inscription et par mètre carré, elle fait 250 mètres carrés, et 10 visites par mètre carré, je pense que ça peut se saluer. Troisième chiffre, il y a trois corps qui décident à la bulle, les élus, mais pas que, les citoyens ou les personnes, je vous laisserai choisir la dénomination, et c'est ouvert à tous, et aussi l'équipe, et ces trois corps votent chacun des nouveaux projets, qui peuvent être éventuellement accompagnés avant d'être soumis au vote. Trois corps parce qu'il y a quatre valeurs qui définissent la bulle, qui tiennent lieu, je le dis tout de suite et je sais que certains vont être surpris, qui tient lieu de projet d'établissement, car il n'y a pas de projet d'établissement à la bulle. Ces quatre valeurs, ce sont l'ouverture pour découvrir ensemble, la collaboration pour faire ensemble, l'inclusion pour être ensemble et l'innovation surtout pour rêver ensemble. Et c'est ces quatre valeurs, nous ont expliqué les collègues, qui doivent déterminer si les projets répondent bien à l'intérêt général. Et dernier mot peut-être sur l'équipe, là aussi, innovation des innovations. Il y a un organigramme circulaire à la bulle. Oui, oui, vous m'avez bien compris. Il n'y a pas de hiérarchie. Bon, un organigramme circulaire, c'est normal, on est dans une bulle. Et chacun des 12 personnes de l'équipe assure une fonction. Dernier chiffre, 25 partenaires à ce jour travaillent avec la bulle. Et désormais, ce n'est plus tellement la bulle qui sollicite l'extérieur, c'est l'extérieur qui veut à toute force rentrer dans cette bulle.
Merci beaucoup. Un tour de force parce que je lui ai demandé il y a une heure s'il voulait bien faire ce retour. Il n'est pas préparé. Merci Jean-Baptiste. Martine, est-ce que tu veux bien revenir sur l'estrade pour nous parler de l'atelier Les aveugles et les malvoyants à la médiathèque Marguerite Duras qui a été animé par Hélène Coudia. Merci.
Nous étions un petit groupe autour d'Hélène. C'est dommage parce que la problématique était intéressante et Hélène nous a vraiment présenté avec passion les activités à la médiathèque Marguerite Duras. Elle nous a d'abord présenté l'état, la situation des acteurs dans ce secteur, les bibliothèques associatives, les associations spécialisées, les associations de déficients visuels, la communauté, etc. Alors, l'intégration de cette problématique donc des publics empêchés dans les bibliothèques ne s'est pas faite facilement au fil des années. Et en fait, à l'ouverture de la médiathèque Marguerite Duras, ils ont donc décidé d'aborder la question de façon un petit peu différente et de se démarquer par l'action culturelle orientée vers ce micro-public, mais ouverte à tous, car l'objectif était bien de la mixité des publics. Par exemple, une des animations phares, c'est un café littéraire de livres audio qui a été instauré au rythme d'un par mois, puis qui après a été rejointe par d'autres animations, des échanges informels entre déficients visuels, des rendez-vous issus de thématiques apportées par les usagers, les personnes de la bibliothèque. Des liens se sont tissés entre elles. L'objectif était bien de faire que les déficients visuels renouent en fait avec les visites culturelles en faisant venir à la médiathèque une intervenante du Grand Palais avec lequel un partenariat avait été tissé et qui présentait des animations adaptées en fait à ce public. Le souhait, c'est de développer l'aide par les pairs davantage, hein, notamment pour le numérique, en s'aidant mutuellement, et l'équipe étant là pour favoriser les échanges. A laissé dernièrement l'accueil des petits, qui se fait autour de jeux de société en petits groupes. Et ça, il y a eu une petite digression sur les enfants qui sont déficients visuels, qui en fait sont en inclusion dans les classes, mais on s'aperçoit qu'ils éprouvent maintenant le besoin en fait, de se retrouver avec d'autres enfants du même âge et dans la même situation. Et la bibliothèque peut jouer ce rôle de les faire se rencontrer et puis jouer ensemble ou bien faire des activités ensemble. Voilà, donc il y a eu beaucoup de questions autour du pôle Lire Autrement, qui est comment traiter les collections. Et puis voilà, et puis Hélène recommande de prendre du temps quand on se lance dans ce genre, dans ces actions. Ça prend du temps pour l'évaluation et pour que ça se mette en place.
Donc voilà. Le temps est notre meilleur allié aujourd'hui. C'est Mathilde qui finit ce temps qui nous reste pour nous parler de l'atelier quand la création artistique est au service des droits culturels. Qui était animé par Ken Wong Yung.
Alors là, c'était vraiment l'atelier du cœur. Ken fait un travail photographique sur ce qu'il appelle le peuple de la rue. Il travaille beaucoup sur le handicap, la place des femmes, les personnes qui sont à la rue, avec une association qui s'appelle notamment les Belles Personnes. Il y a trois expos qui ont été proposées, notamment dans les médiathèques de Bordeaux. Et l'origine de ce travail mené par Ken, en fait, fait suite au décès brutal d'un membre de sa famille. Et il a souhaité finalement guérir de cette blessure en se rapprochant de personnes qui étaient elles-mêmes aussi dans la souffrance et se mettant totalement à leur niveau. Il a réalisé plus de 70 000 photos, si j'ai bien compris, en l'espace de 8 ans. Et là, il nous a présenté un panel de 18 personnes pour apporter de la visibilité. Le but de ce travail auprès de ces personnes issues du monde de la rue, c'est d'apporter de la visibilité, de la lumière sur des gens qui sont eux-mêmes dans le noir, dans l'invisibilité, de leur apporter de la dignité. Pour lui, on sent bien dans ce qu'il dit que c'est... Et d'ailleurs, il les nomme comme ça, que ce sont des déesses et des dieux, parce que pour affronter ce monde-là, il faut avoir un courage hors du commun. Donc il va vraiment travailler sur l'âme, aller chercher cette âme et la faire ressurgir. Il y a un projet... Le but, c'est vraiment de casser les barrières, en fait. Et il pense que ce travail peut particulièrement avoir sa place dans les bibliothèques, parce qu'on est un peu des lieux universels. Et dans tout le travail qu'il mène, ça touche beaucoup à notre universalité, je vais y arriver. Les photos servent aussi de lien entre les familles et les photographiés. Hein. Il a sur Facebook un site qui s'appelle L'œil de Ken. Et il y a ces petits textes qui accompagnent ce travail photographique, servent un peu d'héritage parfois à des gens qui, pour certains d'entre eux, ont malheureusement disparu. Et le but, c'est vraiment de créer du lien autour de ces personnes que la société tend à oublier, de faire sauter des murs. Et justement, la bibliothèque, pour lui, ce sont des lieux où on peut faire sauter ces murs, parce que dans une bibliothèque, on a tout le monde et on ne sait pas vraiment qui est qui. Voilà, donc chaque photo était vraiment toute une histoire. Et en plus, ce travail photographique permet de travailler sur le long terme avec ces personnes et de nouer vraiment des vrais liens qui... D'ailleurs, la plupart de ces personnes photographiées sont devenues des amis chers et ça transparaît dans ce travail. Donc Ken travaille beaucoup avec les bibliothèques et si son travail vous intéresse, je vous incite à approfondir la question parce que c'est vraiment un très très beau travail. On sent cet élan humain, c'est très palpable dans le travail mené. Voilà.
Merci beaucoup Mathilde, et merci à tous nos animateurs d'atelier, tous nos rapporteurs d'atelier. Il est temps de repasser la parole à notre grand témoin, Jean-Michel Lucas, si vous voulez bien reprendre place.